et 16 degrés à Bastia.
Merci Marion Gagnot, bienvenue à tous sur Europe 1. Bon début de semaine, voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
À la une, ce matin, au moins 21 morts en Espagne et des dizaines de blessés, bilan toujours provisoire d'une collision entre deux trains en Andalousie. Les passagers des deux trains ont été évacués. 49-3 ou ordonnance, l'exécutif va choisir tout à l'heure sa stratégie pour faire passer le budget de l'État. Ça va se passer en Conseil des ministres. Rien n'est exclu et cela va aboutir, déclare la porte-parole du gouvernement. Dans ce journal également, cette question, y aura-t-il une riposte européenne aux menaces de Donald Trump? Le président américain veut augmenter les droits de douane pour les pays qui lui refusent la conquête du Groenland. Emmanuel Macron appelle à sortir l'instrument européen anti-coercition. Explication Europe 1 à suivre. Et puis le débat sur la fin de vie, il est de retour aujourd'hui au Sénat. Reportage dans ce journal avec les petites sœurs des pauvres, ces religieuses qui accompagnent les seniors jusqu'à leur mort naturelle. Il est 5h sur Europe 1, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une nuit de profonde douleur, voilà les mots du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour décrire l'horreur qui a frappé l'Andalousie hier soir. Au moins 21 morts et 30 blessés graves dans une collision entre deux trains à grande vitesse. Un choc tel que les wagons ont été projetés hors des rails. Accident incompréhensible pour le ministre des Transports espagnol Oscar Puente.
C'est un train relativement neuf qui n'avait même pas 4 ans. Et la voie avait été complètement rénovée. L'accident est extrêmement étrange puisqu'il s'est produit sur une ligne droite.
Oscar Puente, le ministre espagnol des Transports. Au total, 400 passagers se trouvaient à bord des deux trains. Les survivants ont pu être évacués. Le trafic ferroviaire est interrompu toute la journée entre Madrid, Cordoue, Séville, Malaga et Huelga. Emmanuel Macron a promis hier soir le soutien de la France.
À Alès, dans le Gard, un homme a été tué par balle hier à proximité d'un point de deal.
Âgé de 54 ans, la victime a été découverte inerte dans un quartier prioritaire du centre-ville. Quelques dizaines de mètres plus loin, un autre homme de 31 ans a été pris en charge par les pompiers pour deux plaies par balle. Son pronostic vital n'était pas engagé. Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte.
À la une également ce matin, le budget de l'État. Après 3 mois de négociations et de débats infructueux, on peut espérer un épilogue demain.
Oui, car le gouvernement devrait finalement forcer le passage. Mais avec quelle méthode? Ordonnance ou 49-3? Rien n'est exclu, dit Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement. Alexis de La Fontaine, le Premier ministre, doit trancher aujourd'hui lors d'un Conseil des ministres exceptionnel.
En effet, ce Conseil des ministres donnera l'autorisation au gouvernement d'activer une de ces deux méthodes dans les prochains jours. Selon les informations d'Europe 1, la piste privilégiée reste le 49-3, une solution poussée en coulisses par Emmanuel Macron. C'est moins martial que les ordonnances, justifie un député Renaissance. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français s'opposent au 49-3. Idem au Rassemblement national et à la France insoumise, qui déposeront une motion de censure. Mais le Parti socialiste pourrait ne pas la voter, annonce Olivier Faure sur TF1.
La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre.
Si le soutien des socialistes semble acquis, Sébastien Lecornu doit encore obtenir celui des Républicains. Et malgré une hausse des impôts, notamment sur les sociétés, et une augmentation des dépenses de l'État, pourtant deux lignes rouges présentées par la droite, les députés républicains devraient s'abstenir de voter la motion de censure.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
Il est 5h03, vous écoutez Europe 1, bonjour.
La politique internationale, c'est le bras de fer toujours plus tendu entre les États-Unis et l'Union européenne.
Au cœur de la crise, le Groenland, territoire autonome de la couronne danoise, dont veut s'emparer Donald Trump. Face au refus des Européens de lui vendre l'île arctique, le président américain menace 8 pays, dont la France, d'une surtaxe de 10% sur les importations dès le 1er février et qui pourrait monter à 25% au 1er juin.
En réaction, Emmanuel Macron entend demander à ses partenaires européens d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne.
C'est un outil surnommé le bazooka commercial. Comme ça, tout est clair. Il a été voté en 2023. Que prévoit-il exactement, Barthélémy Philippe?
Eh bien, l'instrument vise à dissuader les pays qui exercent des pressions commerciales contre l'Union à des fins politiques, comme c'est le cas avec le Groenland. Il ne sera activé qu'en dernier ressort si Donald Trump applique les surtaxes et qu'une majorité qualifiée du Conseil, soit 15 pays de l'Union, se prononce pour. Dès lors, une phase de médiation s'ouvrira avec les États-Unis qui auront le choix, renoncer aux surtaxes ou s'exposer à de lourdes ripostes, comme l'explique l'économiste Antoine Bouet.
La première, ce serait certainement des droits de douane de 15% sur 92 milliards de produits importés des États-Unis. On peut interdire les entreprises américaines d'accès aux marchés financiers européens ou aux marchés publics européens.
L'instrument anti-coercition n'est pas vraiment fait pour être utilisé, mais plutôt pour faire plier l'adversaire par crainte des représailles. C'est le scénario privilégié par Bruxelles, tant l'escalade des tensions serait dramatique. Pour citer un exemple, les États-Unis peuvent annihiler une partie des capacités militaires européennes en désactivant les fonctions clés des avions de chasse F-35, dont l'UE possède de très nombreux exemplaires.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et de son côté, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui est dans les bonnes grâces de Donald Trump, tente de calmer les esprits. Elle s'est entretenue avec le président américain et appelle à reprendre le dialogue pour éviter l'escalade.
En Iran, l'accès à Internet de nouveau très limité après un bref rétablissement.
C'est ce qu'indique une ONG. Après 10 jours de coupure en pleine vague de contestation, les Iraniens ont pu fournir quelques informations sur la gravité de ce qui se passe sur le terrain. Un véritable massacre des mollahs, certaines sources évoquant jusqu'à 20 000 morts.
Lundi 19 janvier, c'est aujourd'hui le retour au Sénat d'un débat controversé, celui de la loi sur la fin de vie.
Un texte profondément remanié en commission et dont les débats seront suivis de près, notamment par les religieux. Les petites sœurs des pauvres, par exemple, craignent son adoption. Cette congrégation créée il y a près de 200 ans en Bretagne par Sainte Jeanne Jugan a pour mission principale d'accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle. Elles sont 1600 sœurs sur 5 continents, 31 pays et s'occupent de plus de 9000 personnes âgées. Cyril de la Morinerie s'est rendu à Versailles, dans l'un des EHPAD qu'elle gère, où chaque résident est accompagné avec douceur et grand respect jusqu'à la fin de sa vie. Reportage.
Madame Limbourg,
oui.
Nous voilà.
Germaine, 94 ans, nous accueille le sourire aux lèvres dans sa chambre ouverte sur un jardin. Arrivée ici il y a 2 ans et demi pour y vivre les derniers moments de sa vie, elle ne comprend pas que l'on puisse peut-être bientôt légaliser en France l'aide à mourir.
La fin de vie ici, c'est une vie qui continue. On peut aller jusqu'à la fin de vie quand on est bien accompagné.
Pour vous, la vie est sacrée ?
Bien sûr.
Dans cet établissement tenu par les petites sœurs des pauvres, l'équipe médicale veille jour et nuit sur les personnes âgées. Madeleine, aide-soignante, a vu de nombreux résidents reprendre goût à la vie.
Des fois, quand ça arrive que le résident dit « je veux partir, je suis fatigué », mais après, quand ils sont bien accompagnés, ils changent d'avis. Non, je pourrais jamais donner la mort. Jamais de la vie.
Et cette proposition de loi sur la fin de vie fait naître de vives inquiétudes à Sœur Marie-Christine, mère supérieure de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles.
Elle nous inquiète parce qu'elle est assez coercitive. C'est difficile de trouver un sens pour accompagner la vie, pour que ça se termine comme ça, de façon aussi brutale. En tout cas, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour que nous gardons notre... c'est une clause de conscience, tout simplement.
La congrégation des Petites Sœurs des Pauvres entend continuer sa mission, accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle dans le respect et la dignité.
Cyril de la Morinerie. Un mot de football. Le Sénégal, vainqueur hier soir de la Coupe d'Afrique des Nations, aux dépens du Maroc. Victoire 1-0 après prolongation. Le Sénégal accroche donc une deuxième étoile à son maillot, mais non sans tension. Les deux entraîneurs des équipes finalistes ont failli en venir aux mains hier soir.
Merci Fanny Marceau. Bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, il est 5h08. N'oubliez pas vos deux rendez-vous quotidiens sur Europe 1 avec Pascal Praud. D'abord, l'heure des pros en codiffusion avec CNews de 9h à 10h. Et puis Pascal Praud et vous, de 16h à 18h l'après-midi pour débattre de l'actualité et vous donner la parole.
Et oui, 01 80 20 39 21, c'est le numéro non surtaxé du standard d'Europe 1 pour participer à Pascal Praud et vous de 16h à 18h sur Europe 1.
Merci de nous avoir rejoints ce lundi matin.
Donc, quelques instants, c'est votre rendez-vous comme un lundi.
Ce matin, une chorale qui accompagne les personnes sans abri dans la mort. D'abord, les courses. C'est votre pari gagnant, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 202 Scarface. Dans cette course où tous les chevaux sont à vendre plus offrant après l'arrivée, il possède de solides références sur cette surface, le sable fibré, et il n'aura qu'à répéter ce qu'il vient de réaliser mercredi dernier sur le parcours qui nous intéresse, où il concluait troisième face à une opposition plus relevée que celle de cet après-midi. pour conclure à coup sûr dans les trois premiers. Alors notez bien pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 2 Scarface.
Merci Thierry, on vous retrouve après le journal de 5h30 avec vos pronostics du Quintet sur Europe 1. Dans deux minutes maintenant, votre histoire dingue, Marion, vous êtes, je crois que vous êtes remontée ce matin.
Oh là là, je suis remontée Alexandre. Oui, je vais vous donner le top des meilleures cuisines du monde. Vous allez voir, ce classement ne me plaît pas beaucoup.
À moi non plus.
Il est 5h10 sur Europe 1.
Comme un lundi, le rendez-vous qui met en valeur les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Pierre Durieux.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Ce matin Pierre, vous nous parlez d'une association, dites-vous, qui commence à faire du bruit.
Oui, mais d'abord une histoire pour comprendre. Il s'appelle Yannick Jolivet, il est professeur à la soixantaine, nous sommes en 2007, et Yannick fait son marché comme chaque samedi à Nantes. Il croise la route d'un homme de la rue surnommé Le Gaulois. La conversation entre les deux hommes se poursuit, samedi après samedi, jusqu'au jour où Le Gaulois tire la gueule. Bref, ça va pas fort ce matin-là, et Yannick lui demande ce qui lui arrive. « Eh bien, je viens, dit-il, d'enterrer trois amis de la rue, et les croque-morts les ont mis dans un trou, sans une prière, sans une chanson, comme des chiens, comme des rats, finit-il. » Et Yannick de lui répondre « Eh bien, c'est quand même pas dur, tu as bien trois amis avec qui nous pourrions faire une chorale. » Et c'est ce jour-là qu'est née la chorale Au clair de la rue.
Oui, c'est donc cette chorale, dites-vous, qui commence à faire du bruit.
Oui, ils étaient 3 ou 4, et puis finalement 10, 20 et 30, et à vrai dire un nombre toujours un peu aléatoire, car les chanteurs sont des personnes de la rue, en galère, isolées, précaires. Et un chef de chœur et un musicien amateur, éclairé, les accompagnent. Et ça chante ensemble, et depuis, Au clair de la rue a essaimé à Marseille, à Paris, à Lyon, à Montpellier et à Strasbourg. Les gens font appel à eux pour que personne ne soit enterré sans quelques notes de musique. Alors, on chante pas des cantiques, hein. C'est l'Auvergnat de Brassens, c'est la tendresse de Bourville, des chants marins, du Renault aussi, dont une chanson est devenue presque une devise. C'est pas l'homme qui prend la rue, c'est la rue qui prend l'homme. Et depuis le premier enterrement du petit René dans la chapelle du CHU de Nantes, Au clair de la rue a déjà accompagné 300 personnes vers l'autre monde. Oui, la vie, la mort, c'est moins désespérant en chantant.
Et donc, pourquoi nous parler d'Au clair de la rue aujourd'hui ?
Voilà, Le Gaulois est mort il y a presque 10 ans. Au clair de la rue continue de chanter et d'émouvoir. Et il y a quelques mois, c'est le directeur de l'opéra qui les a contactés pour les inviter. Alors, pas seulement à écouter quelques pièces majeures, mais aussi à chanter sur scène. Et à chaque fois, c'est le même miracle, standing ovation de l'assistance. Voilà. La chorale Au clair de la rue chante un peu faux, mais son ton est toujours juste. Il ne s'agit pas nécessairement d'être talentueux dans la vie, mais d'avoir envie de le faire avec ceux auxquels on ne pense pas, au service de ceux auxquels on ne pense plus. Car on peut mourir peut-être sans richesse, mais non pas sans la tendresse d'une chanson.
Comme un lundi sur Europe 1, merci Pierre Durieux, délégué général de la Fédération Village Saint-Joseph. Je le rappelle, ces maisons qui accueillent des personnes en difficulté.
Il est 5h12, excellent lundi matin à tous. À suivre dans quelques minutes, ce sont les initiatives en France, Alexandre.
Et ce coup d'accélérateur ce matin pour les jeunes patrons qui ont un projet porteur, l'assureur Abeille Assurance leur ouvre chaque année un concours pour les récompenser. Cette année, 10e édition, on en parle dans 2 minutes.
Europe 1.
Bientôt 5h15 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver votre histoire dingue. Marion, ce matin, je crois que vous allez faire grincer des dents chez tous les Français un petit peu chauvins. Et il y a de quoi.
Douce France.
Eh oui, c'est un scandale, Alexandre. Et je sais que vous allez être autant offusqué que moi, c'est sûr. Quand on parle de la France, à quoi on pense en premier, mis à part le fait qu'on est râleur et qu'on fait tout le temps la grève? Qu'est-ce qui nous représente dans le monde?
Allez, la gastronomie, évidemment.
Bah bingo, la gastronomie, c'est une de nos plus grandes richesses, entre les innombrables fromages, les vins, la cuisine, des bons plats régionaux à la cuisine raffinée de grands chefs, il y a quand même de quoi faire, hein. On a des spécialités dans chaque recoin du pays, il faut le dire. Alors, je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais quand on pense à la France, on pense forcément à la blanquette de veau, à la choucroute, au bœuf bourguignon, à la raclette, au gratin dauphinois.
Très bonne sélection, que du léger, Marion.
Voilà.
Vous êtes, vous êtes en forme.
Aux galettes bretonnes, je pourrais dire ça aussi. On pense aussi à la baguette, au croissant, à la tarte tatin, aux madeleines. Voilà. J'arrête là parce que je commence à saliver. Il est beaucoup, beaucoup
Arrêtez.
Trop tôt.
Bon, c'est vrai que la cuisine française, c'est quelque chose et qu'elle est reconnue dans le monde entier.
Eh bien, pas autant qu'on le pense, Alexandre. Et il est là, le scandale. Figurez-vous que le site Taste Atlas, qui est un guide de voyage en ligne dédié justement à la cuisine traditionnelle dans le monde. Bon, eh bien, il vient de sortir son top 100 des meilleures cuisines du monde et la France n'est pas sur le podium.
Quoi ?
Elle n'est même pas dans le top 5.
Mais quoi ?
Non, je vous assure, et elle a bien failli ne pas se retrouver dans le top 10. Ça s'est joué à peu de choses, puisque dans ce classement, la France n'est que 9e des meilleures cuisines du monde.
9e ? Ah oui, effectivement. Alors, on aimerait bien savoir quels sont les critères sur lesquels se fonde de ce site pour établir son classement.
Eh bien, ce site se base sur les presque 600 000 évaluations des voyageurs concernant les spécialités culinaires du monde. Et ils ont fait leur classement, comme à l'école, en faisant des moyennes de chaque pays à base de ces évaluations, sur la base de ces évaluations. Alors, je vais vous le donner, ce classement,
bah,
forcément.
Bon. Bah oui.
En première position des meilleures cuisines du monde, il y a l'Italie.
Bon,
ça, c'est mérité. Tout le monde aime leurs pâtes, leurs pizzas, pourquoi pas. On retrouve ensuite, sur la deuxième place du podium, encore une cuisine méditerranéenne, la Grèce.
Oui.
Voilà. En troisième, alors ça, c'est plus surprenant pour nous, puisque c'est une cuisine qu'on connaît peu, mais il s'agit du Pérou.
Ah,
voilà.
Alors, bon.
Les ceviches, peut-être.
J'ai pas l'habitude de fréquenter des restaurants péruviens, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà. Ensuite, en quatrième position, c'est la cuisine portugaise, avec le fameux bacalao.
Ouais.
Suivi de la cuisine espagnole et ses tapas. Et enfin, la cuisine japonaise, avec ses sushis, ramen et autres tempura.
Bon. Bah, le Japon, que j'aurais pu penser plus haut dans le classement, effectivement.
Moi aussi, quand même, cuisine très raffinée, le Japon. Hein. Après vient la Turquie, la cuisine chinoise en 8, et finalement, la cuisine française en 9. C'est fou quand même, 9e place. Alors je suis pas du tout d'accord, je ne sais pas où sont allés manger les gens qui ont donné les notes, mais il y a forcément une erreur quelque part. Moi je propose qu'on recompte, Alexandre.
Ils ont pas goûté à la raclette, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible, franchement. Non. Alors là déjà j'ai faim et vraiment je suis très en colère.
Et vous nous avez donné faim. Votre histoire dingue, Marion Gagnon, merci.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Bon réveil et bon appétit, bon petit déjeuner avec Europe 1. Il est 5h16, le journal permanent, Fanny Marceau.
Une nuit de profonde douleur, voilà les mots du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez après l'accident qui a frappé l'Andalousie hier soir. Au moins 21 morts et 30 blessés graves dans une collision entre deux trains à grande vitesse. Un choc tel que les wagons ont été projetés hors des rails. Le trafic ferroviaire est interrompu toute la journée. Emmanuel Macron a promis hier soir le soutien de la France. Dans l'Aude, deux quartiers évacués hier soir à Narbonne face aux menaces d'inondations. Le département, comme quatre autres du sud de la France, est en vigilance orange, crue, inondation et pluie. Le préfet de l'Aude a appelé à la plus grande vigilance face à une montée des eaux jugée imminente dans cette ville de 60 000 habitants. Le budget de l'État sera-t-il adopté demain au forceps ? Le gouvernement devrait choisir sa méthode aujourd'hui. Ordonnance ou 49-3, rien n'est exclu, dit Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre doit trancher lors d'un conseil des ministres exceptionnel dans la journée. Un nouveau procès à Londres dans la bataille menée par le prince Harry contre les tabloïds. Le fils cadet du roi Charles III attaque l'éditeur du Daily Mail, qu'il accuse d'avoir obtenu des informations sur sa vie privée de façon illégale. Le prince, qui vit en Californie, devrait assister à l'ouverture du procès devant la haute cour aujourd'hui. Et puis en football, le Sénégal vainqueur hier soir de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens du Maroc. Victoire 1-0 après prolongation. Le Sénégal accroche une deuxième étoile à son maillot, mais non sans tension. Les deux entraîneurs des équipes finalistes ont failli en venir aux mains hier soir.
Europe 1.
Merci Fanny Marceau. Avant le journal de 5h30 dans 10 minutes sur Europe 1, vous allez écouter Bruno Mars.
Eh oui. 10 ans après son dernier album solo, le chanteur a dévoilé son nouveau single. C'est un titre disco, vous l'entendez, qui s'appelle I Just Might.
Les initiatives en France à 5h18 sur Europe 1. Ce matin, c'est un tremplin pour les jeunes entrepreneurs. Bonjour Julia Mangi.
Bonjour Alexandre.
Vous êtes la directrice RSE d'Abeille Assurance. En pleine crise agricole, on peut peut-être commencer par rappeler qu'Abeille Assurance a été créée à l'origine par des agriculteurs, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, l'abeille bourguignonne a été créée il y a bientôt 170 ans à Dijon et nous allons fêter ce bel anniversaire cette année.
Oui, alors cette année également, vous fêtez les 10 ans d'une initiative que vous avez baptisée la Fabrique Abeille Assurance. Une fabrique, il faut comprendre, un incubateur en quelque sorte, je veux dire, vous récompensez en fait des projets d'entrepreneurs qui peuvent avoir un impact, dites-vous.
Oui, la Fabrique Abeille Assurance, c'est un concours des entrepreneurs qui s'engagent pour la société de demain. Donc c'est un concours qui s'adresse à celles et ceux qui imaginent des solutions concrètes et innovantes pour relever les défis environnementaux, sociaux ou sociétaux de notre époque. Donc effectivement, notre ambition, c'est révéler cette richesse des idées concrètes qui animent les entrepreneurs français, qu'on considère en fait un véritable moteur économique du pays.
Concrètement, qu'est-ce que vous offrez aux lauréats, aux jeunes entrepreneurs ? C'est un tremplin, un coup d'accélérateur en fait.
Tout à fait, c'est bien évidemment une contribution financière,
oui.
Bien au-delà, c'est aussi un accélérateur d'impact. puisque nous accompagnons ces entrepreneurs tout au long de leur parcours. Les projets sont parrainés par nos agents généraux, eux-mêmes en fait entrepreneurs, acteurs de tissu local.
Donc vos agents Abeille Assurance sur le terrain en fait, hein ?
Tout à fait, notre réseau d'agents a la particularité d'être présent partout en France, avec plus de 1000 agents généraux. Donc ils ont aussi cette capacité de faire rayonner ces initiatives localement.
Et donc vous parliez d'une enveloppe, alors accompagnement humain bien sûr, mais financier, vous proposez quelle enveloppe justement au lauréat de la fabrique Abeille Assurance ?
Cette année, nous avons 6 prix, donc 4 catégories historiques, avec 35 000 euros de soutien financier pour le lauréat de chacune des catégories. Donc pour rappel, 4 catégories face aux enjeux majeurs, donc soutenir l'emploi, renforcer le lien social, agir pour la santé et protéger l'environnement. Et cette année, comme vous l'avez mentionné, avec l'anniversaire de 10 ans de la fabrique, nous avons mis en place un prix spécial, baptisé Terre d'Avenir, qui est destiné à mettre en lumière des initiatives innovantes pour le monde agricole. Et simplement.
C'est ô combien d'actualité, bien sûr.
Tout à fait. Et ce prix-là sera récompensé également de 35 000 euros. Et enfin, le projet le plus inspirant concourra en fait au prix coup de cœur avec 10 000 euros de subventions supplémentaires et un équivalent de 150 000 euros de visibilité médiatique à co-construire avec Abeille Assurance.
Bon, alors ça évidemment c'est effectivement très bienvenu lorsqu'on est un jeune patron et qu'on se lance dans un nouveau projet. Justement, je suis un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse, je peux me porter candidat là dès maintenant. Hein. Vous êtes ouvert aux candidatures depuis quelques jours, Julia Mangi.
Oui, les ouvertures, les dépôts des candidatures est ouvert depuis 12 janvier et cela jusqu'au 13 mars.
Oui. Il y a un processus de sélection. Ensuite, il y a un vote du public.
Tout à fait. Il y a un processus de sélection à plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, l'admissibilité au concours. Donc, on va vérifier que le projet répond bien aux critères d'éligibilité. Et ensuite, avec notre partenaire, La Ruche, tous les projets vont être évalués selon un certain nombre de critères comme la pertinence des enjeux adressés, la pérennité économique, le caractère innovant de la solution et ainsi de suite. Sur ces projets en fait sélectionnés, il y aura effectivement une phase de vote du public où chacun va pouvoir se prononcer en faveur d'une initiative qui lui est chère. Et enfin, parmi tous ces projets en fait postulants, nous allons sélectionner 40 finalistes que eux vont participer en fait à une journée de clôture, une journée qui se tiendra le 2 juillet à la station F à Paris.
Oui.
Donc c'est une journée qui sera rythmée par des ateliers et des soutenances devant des jurys.
Oui, station F, incubateur de start-up le plus grand d'Europe d'ailleurs, je crois.
C'est un lieu chargé en innovation, en impact, donc un lieu aussi symbolique pour ces 10 ans de la fabrique.
Bon, 10 ans d'existence en effet, Julia Mangi, plus de 7000 projets étudiés, hein, plus de 250 récompensés. Changer la vie des Français, c'est votre ambition ? Quelques exemples tiens, de projets récompensés et qui font leur route aujourd'hui. Je pense au Café Joyeux, c'est un exemple ?
Tout à fait, nous avons eu la candidature pour l'ouverture d'un Café Joyeux à Marseille. Donc Café Joyeux, ce sont des cafés-restaurants inclusifs, employant de personnes en situation de handicap, qui offrent un cadre chaleureux aux diversités et convivialités se rencontrent. Mais quand vous disiez 250 lauréats et des nombreuses histoires qui inspirent, des projets qui portent des sujets très variés. Donc parmi nos candidats phares, je peux également citer Yuka. Donc une initiative qui permet de scanner des produits alimentaires pour savoir ce qu'on mange.
Avec l'application, oui.
Tout à fait, on les a soutenus à leur début en 2017. Donc aujourd'hui, c'est une référence et c'est également ce qu'on vise, en fait, de soutenir les projets au moment où c'est pertinent pour eux. Des projets dans lesquels on croit, parce que c'est vraiment une conviction profonde que derrière ces différentes initiatives, il y a un réel potentiel de changer le monde si on leur donne leur chance. Donc la fabrique Abeille Assurance, c'est un véritable coup de pouce décisif parfois pour ces projets importants.
Coup de pouce décisif, voilà. La fabrique Abeille Assurance, dispositif national d'aide aux jeunes entreprises. On va refaire un petit point sur le calendrier. Julia Mangi, vous nous disiez donc que les candidatures sont ouvertes pour les jeunes entrepreneurs, et cela jusqu'au 13 mars. Il y aura ensuite effectivement le vote du public pour désigner les finalistes, et puis les lauréats seront désignés le 2 juillet. Julia Mangi, directrice RSE d'Abeille Assurance, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
Il est 5h24, bon réveil à tous avec Europe 1. Avant de retrouver le journal de Christophe Lamarre, un réveil en musique Marion.
Et oui, avec Bruno Mars qui est de retour. Son quatrième album solo très attendu sortira le 27 février. En attendant, on écoute un premier extrait, I Just Might, sur Europe 1.
Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, your face got me so intrigued. I'm so intrigued.
Just Might, Bruno Mars sur Europe 1. Et la star a annoncé deux dates de concert à Paris. Les 20 et 21 juin, ça sera au Stade de France.
Bienvenue à tous sur Europe 1 dans la prochaine demi-heure. Le Club Culture, c'est dans une vingtaine de minutes. Le livre du jour de Nicolas Carreau, Marion.
Oui, Nicolas a choisi le nouveau roman de Florent Oiseau ce matin, Magloire.
Comme chaque lundi, l'actualité des séries.
Avec Héloïse Goua qui a eu un coup de cœur pour une série dramatique française, l'affaire Laura Stern.
Comment parvenir enfin à un budget pour la France ? Sébastien Le Cornu va trancher tout à l'heure entre le retour du 49-3 et le recours aux ordonnances, ce qui serait inédit, en tout cas sous la 5e République, pour l'adoption d'un budget. Surtout pas d'ordonnance, met en garde le PS, et le député Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste, vient vous expliquer pourquoi dans 10 minutes.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
Quel temps pour ce lundi, Marion ? Attention, le bassin méditerranéen est sous vigilance.
Et oui, depuis vendredi, on a une dépression qui s'est installée sur le bassin méditerranéen. Elle s'appelle Harry, cette dépression, et c'est elle qui provoque ce temps perturbé sur l'ensemble du pourtour méditerranéen avec de fortes pluies, de la neige abondante en montagne, un vent parfois soutenu, une mer très agitée. Enfin, le cocktail est vraiment très intense et là où les intempéries sont les plus sévères, eh bien c'est sur le Languedoc-Roussillon et sur l'est de la Corse. Dans l'Aude et dans l'Hérault, de nombreux cours d'eau ont largement dépassé leur seuil. Les deux départements sont en vigilance orange pour crue. Un ordre d'évacuation a été émis par le préfet de l'Aude d'ailleurs pour deux quartiers de Narbonne. Donc là vraiment, prudence absolue dans ces départements. Et puis on a toujours cinq départements en vigilance orange pour pluie, inondation. L'Aude et l'Hérault bien sûr, la Corse du Sud, la Haute-Corse et les Pyrénées-Orientales. Vraiment beaucoup, beaucoup d'agitation près de la Méditerranée aujourd'hui. Et ça va encore durer quelques jours. Ailleurs, les conditions vont peu évoluer aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Le temps va rester gris, couvert sur les régions de l'Ouest. Ce sera plus variable à l'Est, avec des températures toujours douces qui seront comprises cet après-midi entre 5 degrés à Colmar et 16 à Ajaccio. Vous aurez 8 à Charleville-Mézières, 11 à La Rochelle, 12 à Paris, 13 au Mans et 15 à Nice.
Merci Marion Gagnon. Europe 1 bonjour et bon réveil à tous, il est 5h30.
Europe 1 bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
À la une, ce matin, au moins 21 morts en Espagne après le déraillement d'un train entré en collision avec un autre. Ça s'est passé hier soir, le bilan est toujours provisoire. 30 personnes dans un état grave. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, évoque une nuit de profonde douleur. La crise du Groenland, l'Europe cherche la parade au chantage douanier de Donald Trump. Un sommet extraordinaire des 27 est prévu cette semaine. Emmanuel Macron demande l'activation de l'instrument européen anti-coercition. 49-3 ou ordonnance. Le Conseil des ministres, tout à l'heure, va choisir la meilleure façon de faire adopter le budget 2026. Sébastien Lecornu s'est garanti la bienveillance des socialistes. Les entreprises vont payer l'addition. Et puis le foot, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 1-0 en finale face au Maroc. Un match émaillé de nombreux incidents sur le terrain et dans les tribunes.
Europe 1.
Il est 5h30 sur Europe 1, le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Faire front commun contre Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane, les 27 dirigeants européens se réuniront cette semaine à Bruxelles pour fixer le cap de la riposte. Sommet extraordinaire qui pourrait se tenir jeudi. Au menu, la riposte au chantage territorial de l'allié américain. Emmanuel Macron propose l'activation de l'instrument anti-coercition. Reste à savoir si ses partenaires vont suivre cette voie, Arthur Delaborde.
Officiellement, l'Europe est unie. Déclaration conjointe hier des 8 pays visés par Donald Trump. Solidarité affichée, condamnation ferme. Mais dès qu'il faut agir, l'unité se fissure. Emmanuel Macron pousse pour une réponse maximale. Activer l'instrument anti-coercition, le bazooka européen. Sanctions commerciales, restrictions d'investissement, pression directe sur l'économie américaine. Une stratégie forte sur le papier, risque élevé dans les faits. Car ce mécanisme n'a jamais été utilisé. Et il engage l'Europe dans un affrontement économique durable avec Washington. L'Allemagne temporise, à peine déployée au Groenland, son petit contingent est déjà rentré de manière inattendue. Officiellement, la mission s'achève. Politiquement, Berlin envoie un signal de prudence. L'Italie freine aussi. Giorgia Meloni parle d'erreur, pas de bras de fer. Elle veut désamorcer, pas durcir le conflit. D'ailleurs, une porte de sortie diplomatique existe peut-être. À Davos, en Suisse, après-demain, où Donald Trump est attendu. Terrain neutre pour tenter de calmer le jeu. Emmanuel Macron lui assume l'épreuve de force, mais sa stratégie pose une question centrale. Faut-il frapper pour dissuader ou temporiser pour éviter l'escalade ?
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
On en vient à cette tragédie en Espagne. Ça s'est passé hier soir, au moins 21 morts et 30 blessés graves après le déraillement et la collision entre deux trains à grande vitesse. Ça s'est passé dans la province de Cordoue, en Andalousie.
Un premier train de la compagnie italo-espagnole Irio a déraillé avant d'entrer en collision avec un autre train qui arrivait en sens inverse. Accident incompréhensible à ce stade pour les autorités et les experts, puisqu'il s'est produit sur une ligne droite et sur une voie rénovée récemment. La liaison à grande vitesse entre Madrid et l'Andalousie est fermée pour la journée.
Europe 1, il est 5h33.
À la une de l'actualité ce lundi également, Christophe, le Sénat relance le débat sur la fin de vie.
L'une des réformes majeures du second quinquennat d'Emmanuel Macron, l'aide à mourir revient à partir de demain en séance. Une semaine de débat, vote solennel programmé le 28 janvier. Partisans et opposants au texte affûtent leurs arguments, mais le Sénat étant dominé par la droite, il y a fort à parier que cette proposition de loi sera largement amendée. Maïalène Trémollet.
Cette commission n'est pas un tribunal médiatique ou politique, c'est sur ce motif que Jérémy Patrilettus, son président, choisit de restreindre les possibilités de diffusion en direct. Une décision qui vise directement Charles Alloncle, rapporteur et député UDR, accusé de vouloir surmédiatiser les auditions. Mais pas question pour les luciotistes de changer de méthode, même dans ce climat de tension. S'il a accepté les règles imposées début janvier par le bureau pour permettre la reprise des travaux,
du service politique sur la reprise des débats sur la commission de réforme de l'audiovisuel public. On en reparlera tout à l'heure dans les éditions sur Europe 1. Les élections municipales à Paris, tous avec moi. Rachida Dati avait un message à faire passer à la droite parisienne. 1200 militants réunis hier à la Maison de la Mutualité pour écouter la candidate Les Républicains prôner le vote utile dès le premier tour. Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo, des candidatures de témoignage, dit-elle. Rachida Dati, légèrement devancée dans les derniers sondages par le socialiste Emmanuel Grégoire, héritier du passif sécuritaire et budgétaire des années Hidalgo.
Nous partageons tous une conviction profonde. Paris mérite mieux. Paris doit avoir mieux. Le moment est venu de changer Paris. Aujourd'hui, Paris est une ville où trop de Parisiens ont le sentiment d'être abandonnés. Une ville où ils ont dû malheureusement s'habituer au désordre, s'habituer à la saleté, s'habituer à l'insécurité du quotidien. Alors ce malaise, ce n'est pas une impression. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un mirage. C'est le pari réel.
Rachida Dati, hier à la Maison de la Mutualité à Paris, la ministre de la Culture qui s'est engagée à quitter le gouvernement avant les élections municipales des 15 et 22 mars. Les municipales toujours, mais à Pau, François Bayrou est candidat à un troisième mandat. L'ancien Premier ministre l'a officialisé hier à l'occasion d'une conférence de presse. Et puis un résultat du premier tour de la législative partielle dans le Loiret. La ministre de la Santé en tête devant la candidate du Rassemblement National. Stéphanie Rist recueille 35% des voix contre un peu plus de votes. De 29% pour son adversaire, pardon.
En Iran, et face à la vague de manifestations, le pouvoir affirme avoir repris le contrôle de la situation.
Accès à Internet à nouveau limité après un bref rétablissement. Écoles et universités ont rouvert ce week-end. Le mouvement de révolte déclenché le 28 décembre aura fait plusieurs milliers de morts sans que l'on puisse donner de chiffres plus précis pour l'instant. Certaines estimations parlent de 20 000 tués. La République islamiste assure que le calme est revenu, mais les massacres se poursuivent. Caroline Baudry.
Les rangs des manifestants s'amenuisent ces derniers jours, mais le régime des mollahs tue toujours à bas bruit. Dans cette soi-disant accalmie, explique Irbot Deganiazar, avocat spécialiste de l'Iran et président de l'association Nowruz pour une nouvelle ère.
Ils ont commencé les rafts dans les maisons pour essayer d'arrêter les gens. Ils empêchent les gens de se faire soigner. Ils ont tellement été dans l'abominable qu'on a l'impression que le retour à la normale serait acceptable, ce qui n'est pas le cas. Déjà avant, les gens étaient pendus au écourt sur la place pour créer la terreur. Ils pouvaient disparaître, ils étaient torturés, violés.
Attention à la propagande du régime, rappelle le spécialiste, en contact étroit avec des confrères sur place grâce au réseau partiellement rétabli mais contrôlé.
Dès qu'ils allument les flux, il y a des véhicules qui captent avec des antennes, ces véhicules tournent dans les rues. Et ils viennent arrêter des gens quelques heures après, un peu partout dans les rues.
Mais le régime est mort, estime cet avocat. Les mollahs tiennent par la force et la désinformation. Et le droit international dispose, selon lui, de leviers pour le renverser.
Caroline Baudry.
5 départements du sud de la France sont en vigilance orange, crue inondation. Marion Gagneau vous le disait il y a quelques minutes. La ville de Narbonne, en partie évacuée pour prévenir l'imminente montée des eaux.
Ordre d'évacuation émis par le préfet. Il concerne 2 quartiers, Maraussan et La Mayolle. Les habitants doivent se rendre au parc des sports ou à l'aréna de Narbonne. Les écoles du département sont fermées. Les transports scolaires suspendus toute la journée. Vigilance orange levée en revanche dans l'Hérault.
Les sports à 5h37 sur Europe 1 avec du tennis. C'est parti à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Christophe.
Qualification cette nuit de Quentin Alice pour le deuxième tour. Le Français n'avait jamais franchi le cap du premier tour à Melbourne. C'est déjà terminé pour la sensation canadienne de la fin de saison 2025 et outsider de ce tableau masculin. Félix Auger-Aliassime contraint à l'abandon, jambe gauche douloureuse. Et puis un Open d'Australie qui semble promis de toute façon à l'un des deux grands favoris, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, Christopher Filhoc.
Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés à Melbourne, mais tout le monde attend une quatrième finale de Grand Chelem consécutive entre les deux phénomènes du tennis mondial. Le sextuple vainqueur du tournoi, Roger Federer, s'est exprimé sur cette rivalité déjà légendaire.
Alcaraz-Sinner, c'est une immense rivalité. Il joue un tennis incroyable. Cette finale à Roland-Garros, c'était irréel. C'est génial d'avoir eu un tel match, l'un des plus grands que nous ayons eu dans notre sport.
Carlos Alcaraz, en quête de son premier sacre sacre australien. Le seul grand chelem qui manque à son palmarès s'est imposé lors de son premier match. Son rival italien Yannick Sinner, grand favori à sa propre succession, visera un troisième titre consécutif à Melbourne. Il sera opposé mardi aux Français. Hugo Gaston, d'ailleurs un autre tricolore, fera parler de lui pour sa dernière apparition au tournoi australien à 39 ans. Gaël Monfils s'apprête à disputer l'ultime saison de sa carrière après 22 ans passés au plus haut niveau.
Christopher Fillet a occupé le football, le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1-0 hier soir en finale contre le Maroc, pays organisateur. C'est la deuxième fois de son histoire que le Sénégal remporte la CAN, finale qui restera dans les mémoires, hélas pas forcément pour les bonnes raisons. Le match a été émaillé d'incidents entre erreurs d'arbitrage manifeste et surtout bagarre en tribune de presse entre journalistes.
Ah oui, entre journalistes, oui. Y compris. Christophe Lamarre, merci, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Chers auditeurs, ce lundi matin sur Europe 1, vous retrouvez dès à présent les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 202 Scarface. Dans cette course où tous les chevaux sont à vendre au plus offrant après l'arrivée, il possède de solides références sur cette surface, le sable fibré, et il n'aura qu'à répéter ce qu'il vient de réaliser mercredi dernier sur le parcours qui nous intéresse, où il concluait troisième face à une opposition plus relevée que celle de cet après-midi, pour conclure à coup sûr dans les trois premiers. Alors notez bien pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 2 Scarface.
Merci Thierry Léger.
Et vous retrouvez dès maintenant tous les pronostics de Thierry Léger sur l'appli Europe 1 et sur Europe 1.fr.
Il est 6h20 sur Europe 1, c'est l'heure de jouer, Marion.
Oui, et tout d'abord félicitations à Olivier qui habite en Charente-Maritime et qui remporte le magnifique voyage au Vietnam avec Salin Holidays qui était en jeu la semaine dernière. Bravo Olivier.
Vous allez découvrir dans un instant la question du jour pour tenter votre chance. D'abord, nouvelle semaine, nouveau cadeau à remporter, Marion.
Alors, si vous êtes un petit peu tendu, stressé en ce début d'année, ce cadeau est pour vous. Vous qui nous écoutez, malheureusement, ce ne sera pas pour vous, Alexandre, puisque nous vous offrons une parenthèse de bien-être à l'hôtel Thalazur Karnak. C'est une des 9 escales de la collection Thalazur. Ancré dans la baie de Quiberon, l'hôtel Thalazur Karnak, c'est un lieu d'élégance, de confort et de soins. Alors le programme de votre séjour escale détente zen de 3 jours et 3 nuits pour 2 personnes, eh bien vous allez profiter de 9 soins individuels d'eau de mer avec bain hydromassant, mais aussi d'un accès libre au spa marin, à l'espace hammam, au sauna. La totale pour vous ressourcer et vous détendre. Vous pourrez retrouver les 9 escales de la collection Thalazur sur thalazur.fr et au salon Les Thermalies qui se déroule du 22 au 26 janvier au Carrousel du Louvre à Paris.
Pour la question du jour, toute cette semaine sur l'appli et le site Europe 1, vous redécouvrez une émission qui a marqué votre radio préférée. C'était dans les années 70. Cette émission, baptisée 5-6-7, faisait à l'époque chanter à des artistes les succès des autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Claude François interprète une chanson de Michel Delpech, Les Divorcés. En quelle année cette chanson Les Divorcés est-elle sortie? Réponse A, en 1968. Réponse B, en 1973.
Alors pour tenter votre chance et répondre à la question, vous envoyez simplement Thalasso au 7-39-21, 2 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et puis chaque jour, un gagnant est tiré au sort parmi tous les inscrits pour remporter un abonnement de 3 mois au JD News, votre magazine d'actualité en kiosque tous les mercredis.
Bonne chance à tous, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le budget 2026 à quand son adoption? Nous sommes le 19 janvier, alors faute d'un vote possible à l'Assemblée nationale compte tenu de son grand morcellement, quelle serait la meilleure solution ou la moins pire, entre guillemets, 49-3 ou recours aux ordonnances? Pour en parler, Romain Eskenazi, porte-parole du PS et député du Val-d'Oise, est mon invité dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
5h-7h,
Europe 1 bonjour.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Toutes les questions exigent des réponses.
Sonia Mabrouk, la grande interview, du lundi au jeudi à 8h10 sur Europe 1.
La radio libre.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Europe 1, il est
5h43, votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Bonjour Romain Eskenazi.
Bonjour.
Nous sommes le lundi 19 janvier. Les débats sur le budget à l'Assemblée ont été suspendus. Ils sont renvoyés à demain après-midi. La recherche de ce budget 2026 est interminable. Redonner le pouvoir au Parlement, c'était peut-être pas finalement la meilleure idée de Sébastien Lecornu pour voter un budget pour la France. Ça n'a pas l'air possible.
Moi, je dirais au contraire que c'était une bonne chose. C'était une demande de la part du groupe socialiste de lever le 49-3 pour avoir un débat libre et éclairé après le traumatisme du 49-3 qui avait imposé des budgets austéritaires, qui avait imposé la réforme des retraites. Je pense que le Parlement avait besoin de pouvoir débattre librement et le pari a été réussi pour le budget de la sécurité sociale. Il y a eu un vote pour la première fois depuis 2022 sur le budget de la sécurité sociale. Une majorité a été dégagée pour doter nos hôpitaux, notre système de retraite d'un budget. Pour le budget de l'État, c'est effectivement plus complexe pour Sébastien Lecornu, mais l'absence de 49-3 a tout de même permis 350 heures de débats, d'amendements adoptés, de discussions pour faire bouger les lignes, pour dégager des consensus. Mais sur l'exercice du vote final, effectivement, Sébastien Lecornu a pris acte de son impossibilité de trouver une majorité sur ce budget. Mmh. S'il fait un pas vers la droite, il a l'opposition des écologistes. S'il fait un pas vers la gauche, il a l'abstention des LR, plus l'opposition systématique de RN et LFI, qui fait qu'il n'arrive pas à avoir plus de 50% de votes favorables sur son budget à l'Assemblée nationale.
Alors des pas vers la gauche, il y en a eu plusieurs, vers vous, hein. Après la suspension de la réforme des retraites, plusieurs mesures, d'abord en faveur du pouvoir d'achat, comme la hausse de la prime d'activité, et le repas à 1 euro pour les étudiants, 400 millions de plus pour le logement social, ce sont des choses que vous réclamiez les socialistes, ça veut dire qu'a priori, vous n'allez pas censurer le gouvernement.
Nous devons avoir, comme à chaque fois qu'il y a une décision importante, une discussion collective en groupe, tous les mardis, en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, puis associer les instances du parti. C'est la manière de fonctionner d'un parti démocratique. Simplement, pour répondre très franchement à votre question, nous avons deux conditions qui ont été énoncées par Olivier Faure. C'est d'abord d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble du budget. Pour l'instant, on n'a qu'une déclaration orale du Premier ministre. Et deuxièmement, c'est de voir la partie recette. Car si, effectivement, le Premier ministre nous a accordé beaucoup de concessions, quasiment l'ensemble des demandes qui étaient nos demandes principales pour ce budget, vous l'avez dit, sur le pouvoir d'achat, pour que les Françaises et les Français qui travaillent puissent mieux vivre de leur salaire, sur la question de l'éducation, sur la question de la transition écologique, du logement, de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais nous ne savons pas comment tout ça est financé, donc nous devons voir la partie recette. Mais effectivement, si la partie c'est bien des mesures de justice fiscale qui financent, et pas encore les Françaises et les Français qui travaillent et nos PME qui financent ces mesures, et qu'on a une vision globale sur la copie d'ensemble du budget, effectivement nous pourrions être disposés à ne pas censurer le gouvernement pour doter enfin la France d'un budget, ce que demandent, je le rappelle, les agriculteurs, ce que demandent les PME, ce que demandent les collectivités, les associations et les ménages qui épargnent beaucoup et qui ne consomment pas devant cette instabilité.
Alors normalement, Sébastien Lecornu doit trancher dans la journée sur la façon de le faire adopter, ce budget 2026. Ce sera visiblement soit le retour du 49-3, soit le recours aux ordonnances. Vous avez une préférence, Romain Eskenazi ?
Alors nous, vous l'aviez compris, nous avions une préférence pour ni l'un ni l'autre et pour aboutir à un compromis. Manifestement, ça n'est pas possible. Donc vous avez parfaitement raison, il ne reste que deux options sur la table. Nous avons en effet une préférence pour le 49-3, qui est une procédure connue, établie dans la Constitution, pour faire adopter un texte sans budget, mais tout de même engager la responsabilité du gouvernement, avec l'Assemblée qui peut se prononcer pour ou contre ensuite une motion de censure. Les ordonnances, ce serait inédit, non pas dans la Ve République, ce serait inédit dans l'histoire de la République depuis 1792.
Pour faire adopter un budget, oui.
Tout à fait, ce serait absolument inédit, ce serait renier le parlementarisme, ce serait ouvrir la voie à des gouvernements futurs, peut-être plus autoritaires, pour faire passer des budgets en force par ordonnance. Et vous savez, la Constitution prévoit l'utilisation d'ordonnances lorsque le Parlement n'a pas pu se réunir. S'il y a une guerre, s'il y a une épidémie mondiale, pour que le pays puisse fonctionner pendant que le Premier ministre est cloîtré à Matignon ou le Président à l'Élysée. Là, c'est pas tout à fait le cas. Le Sénat a voté pour le budget, l'Assemblée a voté contre. Et donc, même sur le plan constitutionnel, on ne sait pas si ça tient vraiment la route. Donc on aurait effectivement, entre ces deux mauvaises solutions, plutôt une préférence pour le 49-3 que pour les ordonnances, oui.
Mais le débat est-il constitutionnel? Pour bien expliquer aux auditeurs d'Europe 1, en quoi ce serait plus problématique de recourir à des ordonnances qu'au 49-3, puisque le résultat est le même, c'est un budget adopté sans vote?
Eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que lorsque vous recourez aux ordonnances, vous êtes obligé de prendre la version 1 du budget Le Cornu, c'est-à-dire avant les fameuses 350 heures de débat que nous avons eues à l'Assemblée nationale pour améliorer et rendre plus juste ce budget. Si ça passe en ordonnance, ce serait nécessairement imposer la version 1 du budget Le Cornu, que nous avions qualifié de musée des horreurs, car il mettait une fois encore à contribution les Françaises et les Français qui travaillent pour épargner les grandes fortunes et les multinationales.
Oui, on perd toutes vos avancées, en fait.
Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il passerait un projet de loi rectificatif. Mais moi, vous savez, en tant que député, si ce budget version 1 passe et que derrière il y a une motion de censure, on se posera sérieusement la question de voter cette motion de censure. Parce que le budget adopté, ça aurait été un budget adopté en force, sans toutes les concessions qui passeraient que, hypothétiquement, plus tard, dans une deuxième copie. Alors que si on a un 49-3, ce serait la version du budget, avec toutes les améliorations obtenues, qui seraient contenues dans cette version du budget. Et là, nous pourrions consentir à ne pas voter de censure pour assurer une stabilité au pays jusqu'en 2027.
Une question sur la crise du Groenland, Romain Eskenazi, Donald Trump a très mal pris que l'Europe fasse bloc pour l'empêcher de mettre la main sur le Groenland, car c'est toujours le cas. Il menace à présent 8 pays, dont la France, d'une nouvelle augmentation de droits de douane. Et ça vous inquiète, cette façon du président américain d'envisager l'ordre mondial ?
Eh bien, je pense que c'est révélateur après l'épisode du Venezuela, où encore une fois, nous n'avions absolument aucune complaisance envers le dictateur tricheur Maduro, et nous sommes ravis que ce régime soit à bas, mais nous interrogeons très sérieusement sur le fait d'enlever un président en exercice de manière unilatérale et autoritaire. Ça marquait, je pense, un tournant dans le nouvel ordre mondial. Là, il poursuit et il récidive en voulant s'accaparer des terres pour ses sous-sols, pour sa position stratégique, alors qu'il appartient au Groenland. Le Groenland appartient au Danemark, alors que les États-Unis n'existaient même pas encore. Donc c'est quand même une histoire ancienne. On est dans le monde du rapport de force, qui était finalement le monde tel que la Terre a toujours existé finalement depuis que les sociétés humaines existent, jusqu'en 1945 et la création de l'ONU, pour que les relations internationales soient animées par le droit, par la négociation, par la discussion et non plus par le rapport de force comme cela a toujours fonctionné. C'est donc un sacré retour en arrière, et je pense que quand quelqu'un ne comprend que le langage du rapport de force, il faut lui opposer la force, car c'est le seul langage qu'il comprend. C'est le cas de Poutine, et il a ce point commun avec Vladimir Poutine.
Alors, le rapport de force se met en place parce que, visiblement, l'Union européenne s'apprête à riposter. Emmanuel Macron demande l'activation d'un instrument qui s'appelle anti-coercition. Donc, l'idée serait d'aller vers une réduction des importations américaines, d'écarter les entreprises américaines du marché européen. Est-ce que nous, les Européens, avons les moyens de résister à Donald Trump ?
Le marché européen, c'est le premier marché mondial. On oublie qu'on est fort lorsqu'on est uni. Nous avons plus de population en Europe, dans l'Union européenne, juste les pays de l'Union, qu'aux États-Unis. Nous avons plus de consommateurs, nous avons plus de pouvoir d'achat. Donc lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Le problème de l'Europe, c'est que, et d'ailleurs nos rivaux en jouent, ils tirent les intérêts nationaux des uns ou des autres pour qu'on soit désunis. La Russie, les États-Unis font exactement la même chose. Ils vont pays par pays pour voir nos intérêts nationaux, pour contribuer à nous diviser. Mais lorsque nous sommes unis, nous sommes particulièrement fort, et je pense que les États-Unis montrent les muscles, mais auraient beaucoup de mal à se passer du marché européen pour exporter leurs produits industriels, pour leurs plateformes numériques, pour énormément de produits intellectuels et industriels, voire agricoles, qui sont produits aux États-Unis et qui ont besoin du marché européen. Donc Trump montre les muscles, à nous de montrer que nous savons être unis, que nous savons résister.
Merci Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste, je le rappelle, et député du Val d'Oise ce matin sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h, Alexandre Lemaire.
Il est 6h10, bienvenue si vous nous rejoignez ce lundi matin sur Europe 1, le journal permanent. Christophe Lamar.
L'Espagne sous le choc après la collision mortelle de Cordoue en Andalousie. 21 morts, 30 blessés dans un état grave après le déraillement d'un train à grande vitesse hier soir. La rame a quitté sa voie pour aller percuter le train qui arrivait en sens inverse au même moment. 49-3 ou ordonnance, le Conseil des ministres choisira tout à l'heure la meilleure façon de faire adopter le budget 2026. 5 départements du sud de la France en vigilance orange, crue, inondation. Dans l'eau de la montée des eaux est imminente à Narbonne. Le préfet a ordonné hier soir l'évacuation de 2 quartiers. Les écoles du département sont fermées aujourd'hui, de même que les transports scolaires suspendus toute la journée. Enfin, l'Open d'Australie de tennis, élimination à l'instant d'Arthur Rinderknecht, le français sorti en 4-7 par le Hongrois Fabien Marozin.
Merci Christophe. Le journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Bonjour, il est 5h52.
C'est votre club culture. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Alexandre.
Vous nous parlez ce matin du nouveau roman de Florent Oiseau.
Oui, Florent Oiseau, auteur bukowskien en diable, que l'on suit depuis longtemps, il revient avec Magloire chez Gallimard. Le héros narrateur est un traînard attachant. Il vient de se faire licencier, ça lui va très bien. Il a décidé depuis longtemps que ne rien faire était mieux que tout le reste. Rien faire, sauf picoler allègrement toute la journée.
Oui, quand vous nous parliez de Bukowski, il est à la dérive en fait.
Salement. Enfin, il se débrouille. Il vit de petits trafics dans l'Est parisien grâce à son contact qui lui refourgue du vernis à ongles en gros qu'il revend aux détaillants du coin. Pas cher, mais enfin, il se surveille un peu quand même parce que sa femme en a marre. On la comprend un peu. Et surtout, il essaye quand même de préserver sa fille de 10 ans. Lune, ces deux-là s'aiment beaucoup d'ailleurs, même si elle a de la peine pour son père, bien sûr. Souvent, ils se baladent ensemble au cimetière de Charonne et passent toujours dire bonjour à Magloire. C'est une personnalité du cimetière. Il a même une statue. Ça, c'est authentique. Il est inscrit sur le piédestal. Bègue, dit Magloire. Peintre en bâtiment, patriote, poète, philosophe et secrétaire de Monsieur de Robespierre.
Le secrétaire, dites-vous, de Robespierre.
Plutôt un mythomane génial du 19e qui s'est créé une légende posthume et avait mis tout le peu d'argent qu'il avait réussi à gratter dans son monument et qui a payé une tournée générale de vin à tous ceux qui assisteraient à ses funérailles. Il est devenu une gloire, très locale, et ça, ça fascine Lune, qui décide d'embarquer son père dans une enquête historique sur ce Magloire pour savoir qui il était réellement. Elle a aussi eu une surprise pour son père, elle lui annonce, et c'est non négociable, que les parents vont jouer dans la pièce de théâtre de l'école et qu'il devra jouer le rôle d'une bonne fée. Alors ça, bon, ça l'arrange pas, mais il va quand même essayer de se faire plaisir à sa fille. C'est un roman très touchant, très drôle et aussi très désespéré, servi par un style précis, alerte et reconnaissable entre mille.
Magloire de Florent Oiseau. Merci Nicolas.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.
Les meilleures séries télé comme chaque lundi dans Europe 1, bonjour. Bonjour Héloïse Goua.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Avec une série française qui arrive sur nos écrans cette semaine et que vous nous conseillez, Héloïse, Valérie Bonneton en tête d'affiche.
Valérie Bonneton, qu'on associe souvent à la comédie, on pense évidemment à Fabienne Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi à ses rôles très drôles dans Les Petits Mouchoirs ou Les Boules de Noël. Bon, cette fois, changement radical de registre. L'actrice épate dans une série dramatique très réussie, l'affaire Laura Stern. En seulement 4 épisodes, la fiction explore sans détour les violences conjugales. On suit Laura Stern, une pharmacienne. Elle dirige une association d'aide aux femmes victimes de violences.
T'es en sécurité ici, d'accord?
Mais parce qu'en fait, il m'a appelé ce week-end pour récupérer les enfants. Moi, je lui ai dit non, parce que les enfants, ils ne voulaient pas le voir. Et le juge, de toute façon,
il a une mesure d'éloignement et il est en infraction, d'accord? Oui. Tu veux qu'on appelle la police?
Je sais pas.
La série ne se limite pas aux violences physiques. Elle évoque aussi l'emprise psychologique, plus insidieuse. Bon, je préfère vous prévenir, cette série est souvent difficile à regarder. On assiste dès le début du premier épisode à une scène très choquante. Un féminicide est commis en pleine rue. Suite à cet événement qui aurait pu être évité, Laura Stern est envahie par une colère froide, une colère redoutable. Face à la passivité de la police et de la justice, cette mère de famille décide d'agir pour empêcher la violence des hommes, quitte à prendre des risques, quitte à mettre en jeu sa propre liberté.
Laura, je sais pas quoi faire.
Faut pas rester comme ça, Camille. Je vais vous aider.
Je suis là. Vous m'écoutez, c'est déjà bien.
Je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue haletante. Toutes les actrices sont remarquables, à commencer par Valérie Bonneton, impressionnante dans ce rôle à contre-emploi. L'affaire Laura Stern, c'est une série qui remue beaucoup, oui, mais qui sonne juste. Elle résonne particulièrement dans une société où, l'an dernier, au moins 97 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en France. Et je ne crois pas que cette série cherche à choquer. Elle est nécessaire parce qu'elle nous oblige d'abord à regarder la réalité en face.
L'affaire Laura Stern s'est à retrouver dès jeudi sur HBO Max et sur l'appli Canal+. La série arrivera aussi sur France TV à partir du 19 février. Merci Héloïse.
Et notez que Valérie Bonneton et Hakim Isker, le réalisateur de cette série, seront les invités de Culture Média mercredi. Il est 5h56, Alexandre Lemaire.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de semaine. Votre météo, Marion, arrive dans un instant. Dans la prochaine demi-heure, rendez-vous avec Ombline Roche. Bonjour Ombline.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Dans votre partition à 6h20.
Un chanteur anglais qui a marqué notre petit écran français. Des réclames pour des voitures et une boisson alcoolisée. La partition de Robert Palmer dans 20 minutes sur Europe 1.
Et dans un quart d'heure, Marion, l'édito de Laurent Tessier.
Tous les coups sont permis pendant la campagne des élections municipales. C'est ce que nous dira Laurent tout à l'heure.
Quel temps pour ce lundi 19 janvier? Attention d'abord, 5 départements en vigilance orange ce matin.
Et oui, beaucoup d'agitation dans le sud en ce moment. Alors les pluies seront toujours très abondantes en Roussillon et sur l'est de la Corse. Dans ces régions, l'équivalent d'un à deux mois de pluie sont déjà tombés ce week-end. Dans l'Aude et l'Hérault, de nombreux cours d'eau ont largement dépassé leur seuil. Et oui, il est tombé par exemple à Castanet-le-Haut 213 mm ce week-end. Ça c'est dans l'Hérault. À Narbonne, 94 mm dans l'Aude. Alors ça, c'est beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, dans l'Aude, des quartiers sont en cours d'évacuation. Soyez extrêmement vigilants dans ces deux départements qui sont placés en vigilance orange pour crue. L'Aude, l'Hérault, la Corse du Sud, la Haute-Corse et les Pyrénées-Orientales sont placés, eux, en vigilance orange pluie, inondation. Et puis, ajouter à cette pluie du vent, le vent qui souffle toujours très très fort en bord de mer avec des rafales proches de 90 km/h. Et la neige qui continue de tomber en quantité en montagne sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse où on a un fort risque d'avalanche. Partout ailleurs, le temps sera plus calme, mais très couvert sur la moitié ouest avec quelques ondées par-ci par-là. Ce sera beaucoup plus variable sur l'est du pays. Côté température, eh bien écoutez, vous aurez seulement 4 degrés à Nancy et à Strasbourg cet après-midi, 8 degrés à Besançon, 9 à Reims, 10 degrés à Dunkerque, 11 degrés à Rennes, Laval et Pau, 12 degrés à Valence, Paris et Nantes, 13 à Avignon, 15 à Nîmes et 16 degrés à Nice et à Bastia.
Merci Marion Gagnon. Vous êtes sur Europe 1, bienvenue. Voici votre journal. Europe 1, il est 6h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
À la une ce matin, d'abord cette collision terrible entre deux trains dans le sud de l'Espagne. Ça s'est passé hier soir, le bilan est très lourd. 21 passagers sont morts, une centaine d'autres.